Bonsoir.
Bonsoir.
Qu'est-ce que je vous sers ?
Je sais pas, qu'est-ce que vous pourriez me conseiller ?
Vous reprendrez bien un peu de SF ?
Ah oui, tiens.
Vous reprendrez bien un peu de science-fiction. Le mois dernier, je vous ai raconté la vie de Philip K. Dick. J'ai évoqué les adaptations qui ont été faites de certains de ses œuvres au cinéma. Aujourd'hui, je vais vous parler des films adaptés de Dick. Je ne vais pas les énumérer par ordre de sortie au cinéma, mais plutôt par thématique. On commence avec Total Recall, sorti en 1990, adapté de la nouvelle Souvenir à vendre. Réalisé par Paul Verhoeven, il raconte l'histoire de Douglas Quaid, ouvrier du bâtiment en 2048. Il passe ses journées sur un marteau-piqueur. Oui, ce métier existe encore en 2048. Douglas a une vie tranquille. Trop, peut-être. Il rêve de briser la routine. Aller sur Mars, par exemple. Mais ça coûte cher. Il apprend qu'une société, Recall, peut lui implanter des souvenirs d'un voyage sur Mars. Si bien qu'il aura des souvenirs de ce voyage plus vrais que nature. Mais lors de l'implantation des 10 souvenirs, ça ne se passe pas très bien. L'adaptation filmique diverge bien sûr de la nouvelle. Je ne vais pas vous refaire le débat, j'en ai déjà parlé dans l'émission précédente. Toujours est-il que la question de fond reste la même. Peut-on faire le distinguo entre un vrai et un faux souvenir ? Comment faire la part des choses ? Un souvenir est une connexion synaptique dans le cerveau. Si on passe au-delà de la technique d'implantation des souvenirs, les faux devraient être stockés au même endroit que les vrais. La mémoire est bien faite. Elle efface les éléments considérés comme sans importance, pour se focaliser sur ceux qui sont primordiaux. Seuls les faits marquants vous prouveront que vous avez fait telle ou telle chose. Vous pourrez me dire que si vous avez fait un voyage sur Mars, vous aurez ramené des objets. Oui, mais si l'entreprise est capable de vous implanter des souvenirs, fournir de fausses preuves matérielles ne doit pas être très compliqué. Deux films dans l'esprit dickien ont également traité le sujet. Il y a Eternal Sunshine of the Spotless Mind en 2004, réalisé par Michel Gondry, qui peut être traduit par Éclat éternel de l'esprit immaculé, ou par Heureux les simples d'esprit dans une version plus religieuse, qu'il est tellement bon d'avoir un esprit dénoué de tourments. À voir. A contrario de Total Recall, dans ce film, il est question d'effacer des souvenirs. Méthode tout aussi discutable, surtout pour un chagrin d'amour. Vouloir se faire triturer les neurones pour améliorer son quotidien, entre guillemets, est un pis-aller et une remise en cause de soi-même. Sans mettre de côté la schizophrénie qui risque de se déclencher. En effet, comment se fier à sa mémoire si on y ajoute ou enlève des morceaux ? Nous sommes faits de notre histoire, les bons et les mauvais moments. En rapporter ou en supprimer peut faire de vous une personne bancale, ne sachant plus sur quoi telle ou telle réflexion est basée. À cela va se coller la partie morale de l'opération. Si c'est fait dans un esprit bienveillant, c'est déjà limite, mais si on s'en sert de manière à fuir ses responsabilités... Dans les deux films cités, la démarche était volontaire. Dans Ghost in the Shell de Mamoru Oshii en 1995, c'est un éboueur qui se fait hacker le cerveau littéralement dans une opération terroriste. On lui a implanté une vie de famille factice. Dans ce film d'animation, nombreux sont les humains qui se sont fait greffer des prothèses pour améliorer leur performance physique ou mentale. Mais à quel prix ? En 1995 sort Planète Hurlante de Christian Duguay, inspiré de la nouvelle intitulée Nouveau modèle. L'histoire ? Nous sommes sur la planète Sirius 6b, champ de bataille dévasté par une guerre qui oppose deux clans, l'un présenté comme capitaliste, avide de profit, et l'autre plus soucieux des hommes et de leur santé, les communistes en quelque sorte. Ces derniers sont des mineurs et extraits un minerai énergétique, mais radioactif. Soucieux de leur santé, qui ne le serait pas ? Ils se sont levés contre ceux qui les exploitent. Ils ne veulent rien savoir de la dangerosité de leurs conditions de travail. Un germinal dans les étoiles, en quelque sorte. Mais qui se serait réglé à coup de bombes thermonucléaires. Les survivants sont terrés dans des bunkers et ont créé une arme autonome pour se protéger des capitalistes. Des robots qui ont la particularité de se déplacer très vite sous la surface du sol, à la manière d'un requin qui laisse dépasser sa nageoire dorsale la surface de l'eau. Détail morbide, pour traquer leur proie, ces machines recherchent une pulsation cardiaque. Tout cela accompagné d'un hurlement strident qui finit de faire paniquer la future victime à la manière des bombardiers Stuka allemands de la Seconde Guerre mondiale. Signe d'une mort imminente et horrible. On apprend plus tard dans l'histoire que ces bestioles, les hurleurs comme ils sont surnommés, sont la première génération de robots soldats. Ils sortent d'une usine totalement automatisée et gérée par une IA qui a étudié les humains et qui a créé de nouveaux modèles, qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à ces derniers. Le film de guerre se transforme alors en un film de survie où il faut commencer à se méfier de tout le monde. Le terme abordé est souvent présent dans l'œuvre de Dick. Qu'est-ce qui est humain ? L'auteur a souvent posé la question et pour quelqu'un de paranoïaque et de sujet aux hallucinations, la question peut paraître beaucoup moins anecdotique. Et comme on le verra par la suite, il a parfois une réponse particulière. En 1998 est projeté le Truman Show de Peter Weir, qui est librement inspiré de son roman « Le temps désarticulé ». Il reprend son questionnement sur la réalité du monde qui l'entoure. Dans le livre, un des principaux personnages se demande s'il vit dans une simulation, voire même au centre de cette simulation. Le monde qui l'entoure est-il entièrement destiné à le berner ? Dans le film, la simulation est bien réelle, si je puis dire. Le héros est au centre d'un monde factice, sauf qu'il n'en a pas conscience, jusqu'à un moment. D'un personnage gentil et naïf, il va se transformer en un être méfiant et carrément parano. Le monde qu'il avait considéré comme normal jusqu'à présent va progressivement se transformer en un théâtre trop beau pour être vrai. 2002 voit la sortie de Impostor de Gary Felder. L'histoire prend place en 2079 sur Terre. Terre qui repousse depuis plusieurs années une invasion extraterrestre. Un scientifique en charge d'un programme qui permettrait de repousser définitivement la dite invasion est arrêté au motif qu'il serait un extraterrestre infiltré. Il parvient à s'échapper et va commencer une quête pour prouver son humanité. Là aussi, c'est la question sur l'humain qui revient, mais avec un angle différent. Le personnage principal est persuadé d'être un humain. Mais cela suffit-il ? Comme évoqué plus tôt dans l'univers de Dick, les souvenirs ne sont pas fiables. Et donc, établir la vérité n'est pas simple. En 2002, toujours, il y a aussi Minority Report de Steven Spielberg. Là, ce ne sont pas les souvenirs que l'on triture, mais les visions prémonitrices de ce que l'on appelle les précogs. Des enfants nés avec un don, une malédiction diront certains, celui de voir l'accomplissement de meurtres par avance. Ils sont utilisés par une société qui ainsi arrête de manière préventive les futurs meurtriers. Outre l'aspect légal de la chose, arrêter quelqu'un pour un acte qui n'a pas encore été réalisé est difficilement défendable. C'est plutôt l'exploitation de ces pauvres bougres qui interroge. Dans le film, la question du consentement des trois précogs n'est qu'effleurée. Il est dit qu'ils sont constamment sous drogue pour être dans un état de demi-conscience. De plus, on va apprendre que lors d'une vision, les trois n'ont pas forcément la même version du crime. D'où le titre du film. Il y en a parfois un qui voit un avenir moins fatal. Et donc, qui a raison ? Quelle réalité est la bonne ? Cette solution miracle contre la violence en a créé une autre de violence. Une violence judiciaire, sans appel et à perpète. L'adaptation suivante sort en 2003. C'est Paycheck de John Woo. L'histoire ? Un ingénieur est recruté pour fabriquer une machine secrète. Une fois sa mission terminée, il se verrait effacer tous les souvenirs de cette période. Sauf que, évidemment, ça ne va pas se passer comme prévu. Là encore, on voit que toucher à ses souvenirs, même de façon volontaire, n'est pas sans conséquences. En 2006, c'est au tour du roman « Substance mort » d'être adapté par Richard Linklater sous son nom original, « A Scanner Darkly ». On suit l'enquête d'un policier des stupes infiltrés qui doit surveiller un dealer qui s'avère être lui-même. Ce paradoxe s'explique par la technique d'infiltration du policier. Dans le film, il est équipé d'une combinaison qui l'anonymise complètement. Elle cache son identité en projetant un aspect physique qui évolue constamment. Et ce, surtout lorsqu'il est avec ses collègues ou sa hiérarchie, pour éviter toute fuite. Cette œuvre est particulièrement personnelle. On y retrouve plusieurs sujets qui ont touché particulièrement Dick, à savoir l'addiction aux drogues et la schizophrénie. Comme je l'évoquais le mois dernier, il a été un gros consommateur de drogues légales pour soigner ses troubles anxieux et tenir le rythme de l'écriture de nouvelles. De plus, depuis sa plus tendre enfance, il a présenté des troubles psychologiques et a même été interné. La schizophrénie en faisait partie, il pouvait donc écrire en connaissance de cause. A noter que le film a été réalisé selon le principe de la rotoscopie, c'est-à-dire de filmer de manière classique et ensuite de dessiner par-dessus les images. Ce principe permet de donner un aspect dessin animé en gardant une fluidité et un réalisme au mouvement des personnages, ce qui finira de donner un aspect étrange au film. En 2007, c'est la nouvelle « L'homme doré » qui est adaptée avec le film « Next » de Lee Tamahori. Je vais jeter un voile pudique sur ce film et faire comme si je vous en avais jamais parlé. L'adaptation suivante, c'est « Radio Libre Albemus » de John Alan Simons, sorti en 2007. N'en ayant vu qu'une bande-annonce, je vous laisserai vous faire votre propre jugement. Vient ensuite « L'Agence » en 2011, réalisé par George Nolfi. Ce film est en plus arrangé dans la catégorie « Fantastique », je ne m'attarderai pas sur ce film. Sachez juste qu'il parle du libre-arbitre et de la destinée. Ensuite, il y aura un remake de Total Recall, deux séries, une sur Minority Report et une autre sur le maître du Haut-Château. La dernière adaptation en date, c'est « Passenger » de Morten Tildum, librement inspiré de la nouvelle « Le voyage gelé ». C'est l'histoire d'un homme, passager en hibernation d'un voyage spatial, et dont le système d'hibernation tombe en panne et le réveille bien des années avant la fin du voyage. Il reste une adaptation dont je ne vous ai pas parlé. Et pour tout vous dire, c'est la première. C'était en 1982. La seule que Philip K. Dick verra partiellement avant sa mort. Blade Runner, réalisé par Ridley Scott. L'histoire commence à Los Angeles en 2019. Et oui, on commence à rattraper les films de SF et pas de bol, leurs visions un poil dystopiques sont souvent proches de la réalité. Nous sommes donc en 2019 dans un Los Angeles pluvieux et nocturne, tout le long du film. Deux hypothèses. Soit l'action ne se passe que de nuit, soit la pollution de l'atmosphère est telle que même la lumière du soleil n'atteint plus le sol. C'est la deuxième, je pense, confirmée en cela par l'état de la faune. La situation est tellement pourrie que l'on incite les terriens à migrer vers les colonies spatiales. Il n'y a quasiment plus d'animaux vivants sur Terre. Ils ont été remplacés par des animaux artificiels, même chez les membres les plus riches de la société.
Notre hibou vous plaît ?
Il est artificiel ?
Bien sûr qu'il l'est.
Il doit pas être bon marché.
Une fortune.
Il n'y a pas que les animaux qui sont artificiels. Il y a aussi des humains artificiels. On les appelle les réplicants. Des êtres vivants semblables en tout point aux humains. Avec toutefois quelques nuances, qu'il n'est pas possible de discerner au premier regard. Ils sont plus rapides, plus puissants et au moins aussi intelligents que ceux qui les ont créés. Mais ce ne sont pas des humains. Et c'est ainsi qu'ils sont créés pour servir d'esclaves ou de main-d'œuvre corvéable à merci et sans égard quant à leurs conditions de travail. De plus, ils ont une durée de vie limitée, 4 ans. Et c'est logiquement qu'ils vont finir par se révolter sur une colonie martienne. Ils vont être alors déclarés illégaux sur Terre. Et pour les pourchasser, on met en place une brigade d'enquêteurs spécialisés, les Blade Runners. Ce qu'on peut traduire par « faucheur ». Tout un programme. Leur mission est simple, traquer et éliminer les réplicants. Pour déterminer si un suspect est un réplicant, ils leur font passer le test Voight-Kampff. Un test qui scrute les réactions instinctives du suspect à plusieurs questions bien précises. Ces dernières sont volontairement choquantes pour déclencher une réaction vive chez le testé. C'est aussi la rapidité de la réaction qui est scrutée. Un humain aurait une réaction quasi réflexe à l'énoncé de la question.
Dilatation des vaisseaux capillaires pour une réponse embarrassée. Oscillation de la pupille. Dilatation involontaire de l'iris.
Le test de Voight-Kampff dans notre jargon.
Un réplicant sera un peu plus lent car devant la simuler. Ce qui est recherché dans ce test, c'est l'empathie, dont semblent manquer les réplicants. Une fois confirmé le statut de réplicant, il est abattu séance tenante. On ne parle pas d'exécution, mais de retrait, comme l'on dit pour un produit défectueux. Et c'est le cas. Les réplicants sont considérés comme des outils, guère plus. Et sur Terre, ils sont également dénigrés. Certains les appellent « gueules d'humain ». Une sorte de racisme du futur. À noter que 2019 est une société cosmopolite où l'on parle une sorte d'espéranto. Pour en revenir au Blade Runner, on va suivre les aventures d'un d'entre eux. Un ancien Blade Runner, plus exactement, Richard Descartes, qui va reprendre du service pour traquer un groupe de réplicants modèle Nexus 6 les plus évolués, qui sont arrivés sur Terre récemment et qui ont déjà tué plusieurs personnes sans qu'on sache pourquoi ils sont là. Mais avant tout, comme les Nexus 6 sont des modèles perfectionnés, il faut vérifier si le test Voight-Kampff fonctionne correctement. Descartes doit se rendre à la Tyrell Corporation qui fabrique les réplicants pour valider la précision du test. Là, ce n'est pas un Nexus qui va être testé, mais Rachel, la fille du président de la Tyrell. D'abord surpris, Descartes accepte et commence la procédure. Procédure qui va se révéler plus longue que la normale. À la fin de celle-ci, Eldon Tyrell confirme ce que Descartes avait soupçonné. Rachel est un réplicant, mais elle l'ignore. Troublé par cette révélation, mais aussi par la jeune femme, le Blade Runner commence son enquête. Il y a 4 réplicants à trouver, 2 femmes, 2 hommes. La première dont il retrouve la trace est stripteaseuse. Alors qu'il essaye de l'approcher sous une fausse identité, il se fait démasquer et doit la poursuivre avant de la retirer. À peine ce « retrait » entre guillemets effectué, il se fait attaquer par un autre réplicant et ne doit la vie sauve qu'à Rachel. Celle-ci est maintenant officiellement déclarée comme réplicant et doit être retirée. Ce que Descartes va se refuser de faire, non seulement elle lui a sauvé la vie, mais il en est tombé amoureux. Et c'est réciproque. Pendant ce temps, les deux derniers réplicants, Roy Batty, le chef du groupe, et Pris, son ami, ont trouvé refuge chez J.F. Sébastien, un généticien qui travaille à la Tyrell et qui fréquente le directeur. Les réplicants ont sympathisé avec J.F. en se servant d'un point commun. Tous les trois sont condamnés à plus ou moins long terme. J.F. est atteint du syndrome de Mathusalem, un vieillissement accéléré de l'organisme. Par son biais, Roy est introduit dans les appartements d'Eldon Tyrell et lui demande de modifier le code génétique qui limite la durée de vie des réplicants. Car c'est ça la motivation des réplicants, avoir le droit à une vraie vie et pas simplement une période d'utilité optimale à la fin de laquelle ils se verront éliminés comme des machines vétustes qu'on envoie à la casse. Car cela peut ressembler à la perversion, créer des humains artificiels, leur donner une « âme » entre guillemets, et leur dire qu'ils ne sont que de simples objets et qu'à partir de leur mise en service, ils vont passer quelques années à faire un boulot au moins ingrat, voire dangereux. D'où la démarche désespérée, voire suicidaire, de ce groupe de réplicants. Sauf que cette opération est impossible. Roy va alors tuer Eldon Tyrell, plus par désespoir que par haine. Informé de l'assassinat, Deckard se rend dans l'appartement de J.F. où il se fait attaquer par Pris. Il parvient à la retirer de justesse. Sur ces entrefaites, Roy arrive à l'appartement et ne peut que constater la mort de son ami et décide de poursuivre Deckard. Ce dernier devient chassé et cherche à tout prix à sortir du bâtiment. Mais Roy, qui est un soldat, lui tombe rapidement dessus et commence à jouer avec lui.
Pas très fair play de tirer sur un adversaire désormais. Je croyais que tu étais le bon dans cette histoire. Ce n'est pas toi, le héros. Allez, Decker. Montre-moi. Vas-y, Deckard. Je suis ici, tu as intérêt à tirer juste. Il ne suffit pas de tirer juste. À mon tour, maintenant. Je vais te donner quelques secondes pour préparer ta défense. Une. Deux.
Le Blade Runner, qui paraît si détaché, voire blasé, lorsqu'il traque des réplicants, doit maintenant ressentir la peur. La peur de celui qui est traqué, et qui se sait condamné à une fin brutale et injuste.
Tu as intérêt à en profiter. Il va falloir que je te tue. À moins d'être vivant, on ne peut pas jouer si on ne joue pas.
Il parvient tout de même à atteindre le toit du bâtiment, mais avec Roy toujours sur ses talons. Pour essayer de lui échapper, il saute sur le toit du bâtiment voisin, mais sa réception est hasardeuse et le voilà suspendu à une corniche. Alors que sa vie ne tient littéralement qu'à deux doigts, le réplicant le rattrape et le met à l'abri sur le toit. Sentant sa fin venir, il lui confie, dans ce que l'on appelle le monologue des larmes dans la pluie, sa frustration de n'avoir pu partager ce qu'il a vu et vécu. C'était ça l'essence de sa démarche. Pas juste une envie égoïste d'avoir un peu plus de vie, mais d'avoir une vraie vie. Et que malgré sa condition de machine, il aurait eu des expériences que peu d'humains véritables peuvent se vanter d'avoir eues. Sa vie fut courte mais intense, et dans un dernier effort, en sauvant Deckard, il aura fait preuve de plus d'humanité que certains humains. C'est avec une certaine amertume, mais un calme intérieur enfin trouvé, qu'il va s'éteindre, devant un Richard Deckard perplexe qui se rend finalement compte que l'humanité n'est pas réservée aux seuls humains. Un de ses collègues le rejoint et lui rend son arme pour qu'il aille retirer Rachel.
Vous avez fait du bon boulot. Vous arrivez à la fin.
J'ai fini.
Dommage qu'elles doivent mourir. Mais c'est notre lot à tous.
Mais bien évidemment, il ne va pas le faire. Il décide de fuir avec elle. Le film se finit sur les portes d'un ascenseur qui se referme sur les deux amoureux. Le film aura un accueil très mitigé, et c'est au fil des ans qu'il va gagner son statut d'œuvre culte. Le public de l'époque n'a pas compris la fin par trop implicite. Il est dorénavant considéré comme un monument de cinéma, de science-fiction et du cinéma tout court. Son ambiance, son questionnement sur l'humanité sont souvent cités en exemple. La question de l'humanité des personnages est le point central du film, comme souvent dans l'œuvre de Dick. Dans ce film, les réplicants semblent plus humains que les humains, aussi bien par les bons côtés que par les mauvais. Ils ont des sentiments, contrairement au Blade Runner, entre autres, qui semble apathique. Et cette épée de Damoclès, cette certitude qu'ils ont de connaître dès leur venue au monde leur date de fin. Vous aimeriez connaître la vôtre ? Et vivre cette vie en pleine conscience de sa précarité, on pourrait au moins les considérer avec plus d'empathie. Blade Runner est à classer au rang des plus grandes œuvres de la science-fiction. Il a su garder au fil des années une ambiance, une représentation du futur, qui, s'il n'est pas vraiment notre présent, pourrait devenir notre futur. Et ça, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Mais qui a dit que la science-fiction était là pour nous faire plaisir ? Comme j'ai déjà dit, l'art nous fait réagir, la SF nous fait réfléchir. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de « Vous reprendrez bien un peu de science-fiction ».